Et c'est Georges que j'accueille maintenant avec plaisir. Bonsoir à vous, Georges.
Bonsoir, Sabine. Merci de m'inviter.
J'en suis ravie.
En fait, oui, c'est très gentil. En fait, vous aviez parlé hier avec une dame du Maroc.
Georgia.
Voilà, tout à fait.
Oui.
Bon, une charmante dame qui a raconté plein de choses. Ce n'est pas l'objet de mon appel. En fait, je voulais intervenir hier au soir, mais peut-être que ça n'a pas été possible.
On avait beaucoup de monde hier soir, c'était un peu compliqué.
Oui, oui, tout à fait. Mais je vais faire un préambule avant de rentrer dans le sujet pour lequel je souhaite parler. Mm-hmm. C'est qu'elle vous a proposé, cette charmante dame, beaucoup de plats.
Oui.
Vous irez faire du régime ou du sport après, parce qu'elle vous a dit bonjour les kilos. Hein.
Et à cause d'elle, en rentrant chez moi, j'ai dévoré tellement elle m'a mis l'eau à la bouche. J'avais une faim de lourd en quittant la libre antenne.
En fait, pourquoi je dis ça? Je le dis parce que je connais très bien tout ce qu'elle a dit. Parce que moi-même, je suis français et natif du Maroc.
Oui.
Mes parents étaient fonctionnaires et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 17 ans.
Mm-hmm.
Et tous les plats qu'elle a évoqués, je les connaissais. À l'époque, je les mangeais sans problème parce qu'à 17 ans, on ne grossit pas. Mais aujourd'hui, je ne le ferai pas en tout cas. La cuisine marocaine est excellente, elle est délicieuse, mais bonjour les calories.
Elle tient au corps, quoi.
Ah, oui. Alors, l'objet de mon appel, c'est que, sans que l'objet de ce que je vais évoquer soit politique, parce que dans votre émission, on ne fait pas de ça, mais il se passe d'évidentes choses en ce moment en France. On parle beaucoup de communautarisme, de choses, etc. Et moi, je voudrais corriger certaines choses. C'est cette dame, quand je l'ai écoutée parler hier, qui m'a donné cette idée. Moi-même, pour avoir vécu et né au Maroc pendant 17 ans, je dirais même que quand le Maroc a été indépendant, j'avais 7 ans, et il nous a fallu continuer à aller à l'école, mais comme il y avait une forte empreinte de la langue française, on nous a quand même obligés, et ça a été compliqué pour un Européen, pour un Français qui n'avait jamais parlé arabe, on a appris l'arabe, et d'ailleurs, je le parle un peu, je l'ai appris, et ça ne m'a pas posé de problème.
Mmh.
Mais ce que je voudrais dire, c'est l'image que l'on doit donner à la relation avec le musulman, et je dirais avec l'islam. Moi-même, j'ai encore aujourd'hui, de grands amis au Maroc que je suis allé voir plusieurs fois et qui sont même venus me voir en France parce qu'on vivait dans une communauté. Le Maroc était un pays qui était une espèce de plaque tournante dans lequel il y avait 4 ou 5 ethnies dominantes, espagnoles, portugaises, russes, français bien entendu parce que c'était un protectorat, et puis les arabes parce que c'est leur pays. Alors les espagnols pourquoi? Ben parce qu'ils fuyaient la dictature de Franco, ils n'avaient plus qu'à traverser le détroit et puis se trouver au Maroc assez tranquille. Les Portugais, c'était la même chose parce qu'ils avaient un dictateur qui s'appelait Saint-Lazare. Les Russes, c'est parce qu'ils fuyaient le bolchevisme. Et les Italiens, c'est parce qu'ils fuyaient Mussolini. Et ça, ça formait une espèce d'amalgame. Moi, dans ma cour d'école, on pouvait parler 5 langues hein, parce qu'on entendait de tout.
Mais qu'est-ce que c'est enrichissant, ça?
Oui, mais ce qui est le plus important, j'avais à côté de moi des amis qui étaient arabes, des musulmans. Jamais je n'ai connu un problème. Vous savez, je vais vous raconter une chose qui est extraordinaire. Quand il y avait les Pâques juives, elle a parlé de Houdia hier. Le juif se dit Houdia en Maroc, mais se dit également en espagnol, parce que Houdia, c'est un mot arabe qui est l'union d'Espagne. C'est le juif, en fait. Eh bien, quand il y avait les Pâques juives, quand il y avait la fête à la fin du Ramadan, l'Aïd Kébir, Il y a une grande avenue où je suis né à Rabat qui s'appelle l'avenue Mohamed V, qui doit faire à peu près 2 km de long. Elle s'appelle Mohamed V parce qu'elle a pris le nom du roi qui a obtenu l'indépendance au Maroc. Cette avenue est une avenue marchande dans laquelle vous vous promenez sous des arcades et pendant 2 km vous avez des tas de magasins. Et bien, quand il y avait la fête de l'Aïd Kébir, qui est la fête qu'elle a à la fin du Ramadan, les Arabes faisaient des petites baraques avec des palmiers, des feuilles de palmiers qui courbaient. Et quand vous y allez le soir, le jour de cette fête, les Européens qui, c'était pas notre fête, hein, les Européens qui marchaient dans cette avenue, eh bien, tous les gens nous invitaient à rentrer dans leur baraque et de manger avec eux la cuisine qu'ils avaient faite. Mais tout ça se passait, je dirais, avec une amitié.
Normalement,
il n'y avait aucune arrière-pensée. Et par la suite, quand je disais à mes copains, vous y êtes allés à la fête hier? Oui, ils me disaient, nous, on est allés à tel endroit, on a été invités par eux, etc. Voilà, et moi, à côté de moi, j'avais un musulman qui était à côté de moi. Je n'ai jamais eu de problème. Au sport, on faisait des équipes ensemble. Pourquoi je dis ça? Alors, bien entendu, je ne suis pas un rêveur. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai connu ça, tout est si beau aujourd'hui. Mais je voudrais corriger quand même certaines choses. Il ne faut pas que les fous qui ont tué ces derniers temps. C'est horrible ce qui s'est passé. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il y a quelques centaines comme ça qui sont possédés par je ne sais quel démon, qu'à un moment donné, c'est toute la communauté musulmane et tout le qu'il faut à un moment donné mettre en cause.
Évidemment. Mais j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus.
Mais moi, en tout cas, je voudrais... Ce que j'ai dit, ce n'est pas des livres que j'ai lus, c'est des choses que j'ai vécues. Et quand je suis parti du Maroc, j'en ai pleuré parce que, bon, je savais bien qu'après, quand il y a eu l'indépendance, c'était plus notre pays, c'était compliqué à un moment donné à vivre. Mais ça se comprend. Bon, de toute façon, je ne pouvais pas y rester parce que les études que je voulais faire, il n'y avait pas l'université en question dans la ville où j'habitais. D'une manière ou d'une autre, j'étais rentré. Mais beaucoup de gens, après, il y a des gens qui ne sont jamais partis. Aujourd'hui, le Maroc, alors, je ne saurais pas parler de tout le Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, je ne sais pas du tout. Mais aujourd'hui, au Maroc, la plus forte communauté qui vit au Maroc est une communauté française. Vous avez une ville à côté d'Agadir qui a été construite par tous les retraités français. Il y a, je ne sais pas, 150 000 ou 200 000 personnes. Mmh. Bon, ça veut dire que tout n'est pas négatif et qu'à un moment donné, il faut avoir une image, je dirais, un peu plus objective.
Mais vous savez, ça revient à ce qu'on disait hier. À un moment donné, la violence, elle vient pas d'un pays, d'une culture, d'une religion. Elle vient d'un manque d'éducation, à la base.
Ben, je vais vous dire, il y a même autre chose. Quand les premiers musulmans sont venus, vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, la France avait besoin de main-d'œuvre, et elle n'en avait pas. On est allé chercher beaucoup de musulmans au Maroc. Je vais vous dire pourquoi je connais ça, parce qu'un de mes amis avec qui j'étais à l'école a été ministre à un moment donné. Et quand je suis allé lui rendre visite, il m'a emmené dans le sud du Maroc. Il me dit, tu vois, Georges, il me dit, tous ces villages, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'hommes ici. Bon, c'est surtout Valéry Giscard d'Estaing qui a fait ça, mais il n'a pas fait quelque chose de mal. On est allé chercher de la main-d'œuvre. Eh bien, cette première génération qui aujourd'hui sont des grands-pères et qui ont entre 70 et 80 ans, ce n'est pas d'eux que vient le problème. C'est la deuxième ou la troisième génération. Parce que eux, cette première génération qui était là dans les années 60, jamais ils n'ont posé de problème. La seconde non plus. C'est aujourd'hui des petits-enfants et des arrière-petits-enfants qui se sentent un peu déroutés. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que cette première génération qui était là, c'était des gens calmes, tranquilles, qui s'étaient plus ou moins incorporés à la culture française et qui ne posaient pas de problème. Je ne sais pas comment tout ça a dérivé.
À quel moment ça a vrillé alors tout ça ?
Oh, ça a vrillé vers les années 90-95, il y a à peu près 20 ans. C'est la quatrième génération pratiquement. C'est cette génération aujourd'hui, ils ont quoi ? Ils ont souvent 20-25 ans. Eh bien, c'est les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants de cette première génération qui est arrivée dans les années 60, qui sont travaillés chez Renault, chez Peugeot, etc., etc., dans le textile, dans le Nord. Bon, de la même manière qu'avant, la France avait accueilli les Italiens, les Portugais pour la maçonnerie, eh bien, beaucoup de musulmans sont venus, surtout pour l'industrie, bon, et pour également les mines. Mais ces gens-là n'ont jamais posé de problème. Ils vivent encore là, ils n'ont pas de problème. Comment... J'ai essayé de comprendre, j'ai jamais compris comment la deuxième, troisième génération a dérapé complètement comme ça.
Oui. Est-ce qu'ils ont trouvé leur place ? Est-ce que c'est un problème de place peut-être ?
Non, ils n'ont pas trouvé leur place. Mais vous savez d'où vient la faute ? J'ai connu ça dans deux pays. J'ai également vécu en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a ce qu'on appelle des tip-top, d'accord ? C'est là que tous les gens... C'est comme les favelas, voilà, c'est un peu ça. Bon. Eh bien, quand on concentre à un moment donné des gens qui sont pauvres, qui sont malades, qui n'ont rien, qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas d'éducation, dans les townships en Afrique du Sud, vous avez 2 ou 3 morts par nuit. Bon, c'est les townships où il y a 1 million de personnes. Eh bien, ce qui se passe, on a confiné, on a concentré des gens dans des quartiers, dans des immeubles, dans des tours. Et au bout d'un moment, ces gens-là ne pouvaient pas partager des choses. Ils ne pouvaient pas partager avec eux. Eh bien, ils ont vécu entre eux.
Ils ne pouvaient pas grandir et tirer vers le haut, effectivement.
Absolument, ouais. Absolument. Ils n'avaient pas de repères, ils n'avaient pas de raison, ils n'avaient pas d'objectif. Moi, les gens que j'ai connus au Maroc, ils avaient des repères parce qu'on était tous mélangés. Il n'y avait pas comme en Afrique du Sud, les Arabes d'un côté et puis les Européens blancs de l'autre. Non, on était tous à la même école, assis sur les mêmes bancs, on allait aux mêmes salles de sport, etc., etc. Voilà. Et ça, c'est... Moi, j'ai vécu ces gens-là. Je peux dire qu'aujourd'hui, ce que l'on voit en France n'est pas l'image réelle de ce que peut être de ce qui se passe. C'est pas vrai. C'est, C'est un résidu de gens qui n'ont pas de repères, qui vous rendez compte quand on entend dire que quelqu'un, le courage qu'il faut pour aller couper la tête de quelqu'un, mais c'est ahurissant ça. Je ne sais pas si l'humain, ça dépasse l'entendement humain des choses pareilles.
Est-ce que c'est du courage ou de la folie?
Ou de la folie, je ne sais pas comment il faut le qualifier.
En tout vous avez vraiment raison, Georges, d'insister en disant qu'il ne faut pas faire d'amalgame.
Non, il ne faut pas. Et je voulais apporter cette image que j'ai retenue et qui existe en France de toute façon. Moi, je parle avec des gens de la première et de la deuxième génération parce que j'ai eu une activité professionnelle où j'ai eu beaucoup de gens comme ça. Je n'avais pas de problème. Jamais j'ai entendu un comportement communautariste ou bien des... Non, jamais, jamais, jamais.
Le problème, c'est que ces gens-là qui sèment la haine... N'attendent qu'une chose finalement, c'est de créer la division et de démultiplier cette haine. Et la seule force qu'on peut avoir par rapport à eux, c'est de surtout pas tomber dans cette haine justement.
Alors vous savez, je crois que remuer 68 millions de Français pour créer la division, ça va être compliqué quand même. Hein. Bon, si vraiment c'est l'espérance qu'ils ont, en tout cas il y en a un qui ne suivra pas, c'est déjà moi, parce que moi j'ai quand même une vision un peu différente des choses, et certainement qu'il y en a beaucoup comme moi. Mais on n'y arrivera pas à ça. Le français est quelqu'un qui a toujours, vous savez, depuis la Révolution, on a su en faire des choses, des guerres, et se retrouver un peu pour réagir à quelque chose, mais pas du tout, pas du tout. Et je vais vous citer un autre exemple. J'ai vécu 5 ans en Espagne, et l'Espagne, comme vous le savez, a été pendant 700 ans occupée par les Arabes, particulièrement du Maroc, de toute l'Afrique du Nord. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'entente qu'il y a entre la communauté musulmane et puis le peuple espagnol. Vous allez dans une ville comme Granada, vous avez l'impression d'être dans une ville du Maroc, il y a un souk, il y a des gens qui sont là, ça ne pose aucun problème. Mais aucun. Et moi, je trouve que c'est beau quand on peut voir des choses pareilles.
Ça s'appelle la tolérance, tout simplement, et l'intelligence du cœur.
Oui, absolument. Oui. Absolument. Alors cette dame, quand elle a parlé de tout ça, il m'est venu toutes ces images tout d'un coup, et j'ai dit, mais c'est fantastique, quoi. Il faut que j'appelle pour le dire, quoi. Parce qu'il y a autre chose que ce que l'on voit et ce que l'on entend. Parce que vous savez, les médias sont tellement puissants à un moment donné que vous n'avez plus vous avez une vision qui n'est pas objective des choses. Les médias, quand ils vous massacrent de 6h du matin jusqu'à minuit, il y a eu encore ceci, il y a eu encore cela, les gens sont très influencés par les médias. Pas que pour ça, pour tout d'ailleurs. Mais à un moment donné, ben, il faut corriger les choses.
Merci d'avoir fait ce soir, Georges.
Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler de tout ça.
Avec douceur et intelligence, c'était très agréable. Je vous embrasse.
Merci, au revoir.
Au revoir.